Alors donc la prochaine, enfin la première table ronde de la matinée est consacrée au punk historique et à l'afterpunk. Alors j'appelle Belphégor, Nitrat, Franca et Brigitte Balian, s'ils veulent bien se joindre à nous, voilà, et prendre place. Voilà, donc peut-être pour commencer, que chacun se présente, si voilà, avec ses mots, ce qui est peut-être plus adapté. Donc,
bon, mais moi c'est Rémi. J'étais le petit Nitrate, on va dire. C'est-à-dire, j'ai été le batteur du groupe. J'avais quoi, 14-15 ans. Et puis. Comme Obélix, je suis tombé dedans et je suis toujours batteur avec les Belphégors aujourd'hui. Voilà pour les présentations, c'est un peu rapide, mais voilà.
Bonjour, je suis Brigitte Balian-Artin. J'ai été, on va dire, je ne sais pas s'il faut utiliser le passé composé, parce qu'il y a des renouveaux. Membre du groupe Martin Dupont, de 80, qui a eu une vie. La partie la plus intense de sa vie, ça a été 80-87. Voilà.
Je l'ai mis. Bon, mais moi, je suis Chris. Bon, ben, j'étais le bassiste de Nitrate, donc. Voilà. Voilà, donc, et on a démarré tout ça en 78. Il y a Alien, là-bas, qui était le guitariste. Voilà, on est presque tous là, les Nitrates. Parce que finalement, au niveau du groupe, on n'est pas mort, ça va. On a tenu le choc, nous. Hein. Je veux dire, malgré tout. Comme il dit Alien, c'est l'humour nous qui nous a sauvés. Je veux dire, parce qu'on avait beau être tordus, fracassés tout le temps, mais on avait de l'humour. Voilà. Donc, on voulait pas spécialement mourir trop jeune quand même, malgré tout. Voilà. Donc, on a essayé d'avoir un petit futur. Alors après, ça a fait grincer beaucoup de dents. Ça me fait encore grincer maintenant, cette histoire. Mais ça va. Je veux dire, on est toujours là. Et maintenant, je présente François, Franca.
Ouais, bon, moi, je m'appelle François, c'est mon vrai prénom. À Paris, on a transformé mon prénom, m'appelle Franca maintenant, voilà. Franca Loré, moi j'ai commencé par le chant classique à l'Opéra de Marseille. J'avais 13 ans, quoi. Et ensuite, j'ai rencontré Patrick Capodi, qui avait déjà commencé à monter Cops and Robbers avec Michel Sarel. Et j'ai intégré le groupe en tant que clavier, puisqu'il voulait pas que... Après, il acceptait que je joue un peu de guitare, mais au début, non. Et donc, j'ai acheté un clavier et on a pris un saxophoniste. Et nous, malheureusement, peut-être je vais vous décevoir, mais avec Patrick Capodi, on a toujours pensé qu'on ne jouait pas du punk music, quoi. Voilà, c'est-à-dire que punk, on l'était dans la tête, dans l'esprit, mais la punk music, à la limite, je pourrais dire, moi, récemment, j'ai composé un morceau punk, parce qu'il est punk dans les mots, quoi. Mais jamais de ma vie, j'ai joué du punk. Bon, là, le punk, c'est... Enfin bon, faut écouter en même temps, on jouait rapidement à l'époque. Hein, les tempos, c'était toujours à fond les ballons, quoi. Et oui, j'ai quand même un petit truc à rajouter. Ça va peut-être en faire rire quelques-uns. Mais il faut quand même bien s'avouer une chose. C'est que mes collègues sont tous morts, paix à leur âme. Mais on se défonçait beaucoup, quoi. Et on n'était pas tout seul. Hein.
Voilà. Alors, donc il y a peut-être pour commencer, donc il y a la question de comment vous situez tous les uns par rapport au punk. C'est intéressant, mais peut-être qu'on y viendra après. La question du déclic, en fait, dans la musique. Qu'est-ce qui va déclencher la formation, voilà, des différents groupes
Déjà, le punk, moi, j'envisage pas ça après 79, quoi.
On pour est moi, d'accord, le punk, c'est la question, c'est... Voilà, du sabordage, c'est ça. Parce qu'en fait, le point commun entre Nitrate et Cops and Robbers, c'est que les deux groupes, avant 79, ils sont déjà séparés, en fait, c'est ça.
Non, pas
enfin,
du tout.
Il y a un problème d'enregistrement, des maquettes, des albums, voilà, il y a ce point-là, bah, peut-être.
Attends, un groupe, c'est toujours très conflictuel, quoi.
Oui.
À part maintenant, Rémi et Christian qui jouent ensemble, c'est deux frères, quoi. Ça fait 30 ans qu'ils se connaissent, quoi. Mais un groupe, c'est toujours conflictuel, quoi. Faut le savoir. Ouais.
Hein. Nous, on a démarré en 78, en fait, ouais. Nitrate, voilà. Donc, c'est une sorte de bourgeon, pouf, qui est né comme ça, quoi, voilà. En fait, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais en fait, le problème, c'est que c'est vrai qu'il y avait le look qui était important, je veux dire, le punk. Il ne faut pas oublier, pour les gens qui croient connaître le punk, ça n'a pas vraiment démarré avec de la musique. Le punk, ça a été les fringues. Parce qu'en Angleterre, c'est né aux États-Unis, à New York, avec les Talking Heads, les Ramones, tout ça. Mais tout ce que les gens voient du punk à l'heure actuelle, avec le côté Sid Vicious, tout ça, tout ça, c'est né dans la boutique Sex. Et c'était d'abord les fringues, et la musique, elle est arrivée après. Voilà, ça, il faut toujours le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient, ça. Voilà. Et forcément, c'était dégaine, rock'n'roll, c'était très bondage, très sexe, justement. Parce que le sexe est très important aussi dans le punk. Parce que le sexe, il était juste presque pour de l'amusement. C'était le sexe faisait... C'est la différence avec le rock, où il fallait baiser tout le temps. Le punk, la baise n'était pas une obligation, mais... Vous voyez ce que je veux dire? C'était assez compliqué. Il fallait, c'est difficile à expliquer. Voilà. Ceux qui ont vécu ça, peut-être, qui pourront en parler. Voilà, je veux dire.
Et à Marseille, il y avait une boutique rue Edmond Rostand qui s'appelait Facette.
Ouais, c'est ça.
Où on trouvait...
On trouvait des t-shirts, on trouvait des chaussures, de toutes sortes de vêtements pour s'identifier, se distinguer du quidam de la rue, parce qu'on voulait vraiment... Enfin, moi, je ne peux pas parler à titre de punk, parce que... D'ailleurs, quand tu as fait appel à moi, c'était, j'ai dit, je ne suis pas légitime parce que j'ai fait partie plutôt du mouvement qui est venu après, post-punk. Et là, tu m'as dit non, mais tout est imbriqué. Bon, notamment... j'ai jamais voulu être dans un mouvement très jeune au lycée. Bon, moi, j'ai commencé la musique à 14 ans quand mon père m'a offert une guitare classique et des cours de musique en même temps que des cours d'arts martiaux. Donc, ça allait très bien à mon côté révolté. Donc, c'était peut-être sa volonté de canaliser en moi le chaos qu'il avait perçu très tôt. Parce que moi, mon leitmotiv, c'est assez nietzschéen, c'est... il faut porter encore un chaos en soi pour pouvoir faire danser une étoile. Bon, ça c'est Nietzsche, et c'est toujours en filigrane dans ce que je fais, parce que moi j'ai pas demandé de chaos, je suis née avec, je l'ai toujours porté en moi et j'essaie toujours de faire quelque chose avec cette chose. Et il y a des personnes qui ne sont pas nés avec un chaos, mais qui l'ont cherché, qui l'ont trouvé et qui en font aussi des choses. Mais moi, c'est ce qui me permet de vivre. Et en fait, le punk, pour moi, c'était un mouvement. Donc, je ne voulais pas être dans un mouvement. Il fallait toujours que je sois comme le lièvre, deux pas en avant et hop, à côté. Voilà ce qui m'a toujours distingué, c'est que je ne voulais pas suivre de mouvement. Donc, même si ma première formation avait des allures... assez chaotique et punk et très avec des tempos très rapides. Personne ne connaît ici. Ça s'appelait Azor Color. C'était au Tilt en 80. Et c'est là que j'ai rencontré Alain de Martin Dupont. Un jour, je vois débarquer deux gars plus âgés que moi, en imperméable genre Colombo, lunettes, bon, étudiant. Je dis, mais c'est qui ces gens? Et puis, de ce jour-là, on ne s'est plus lâché parce que lui, il voulait jouer du synthé dans mon groupe Azor Color, donc Alain Séguir, avec qui on a formé Martin Dupont. Et moi, j'étais pour lui une punkette. Il m'a toujours dit, mais tu es punk. Je dis, non, je ne suis pas punk. Il m'a dit, mais oui, tu avais les yeux charbonneux et tu mitraillais les gens avec ton regard. J'ai dit, bah bon, alors. Moi, je ne le voyais pas comme ça. Donc, de ce jour-là, on a fait de la musique ensemble. Azor Color s'est éteint. Et Martin Dupont a commencé. J'ai amené ma guitare et ma voix. Et voilà.
Alors, Brigitte... Ah oui, pardon.
Dans le punk, il ne faut pas oublier qu'une part de rébellion, quoi. Nous, avec Copsin Robert,
ouais,
on ne savait pas trop contre quoi on était rebelles, mais on était rebelles, quoi. Ah ben oui. Voilà, donc... maintenant, je trouve que, bon, les jeunes... c'est pas une critique, mais... Ils ont plus de motivation, quoi. Enfin,
c'est pas la même rébellion,
c'est
moi,
pas
je
la,
pense.
Voilà, voilà. Voilà.
Ouais, c'est pas la même,
c'est pas la même vision, quoi.
Parce que quand on a démarré avec Nitrate, notre but, c'était de jouer le plus vite possible. On ne savait pas du tout jouer, à part peut-être monsieur là-bas, qui lui, il jouait mieux. Et, parce que, voilà. Et en fait, nous, on ne savait pas jouer. Donc moi, c'était, sur scène, c'était Alien qui m'accordait la basse. Voilà. Si j'avais que deux cordes, ça ne me gênait pas, parce que je me servais que de cordes. En gros, c'était ça, quoi. Rémi, il est arrivé, il n'avait jamais tapé sur une batterie.
Non,
on jouait comme des barjots, quoi. Voilà, c'est ça. Et les concerts, c'est vrai qu'on les finissait rarement.
J'avais
voilà.
Le disque Neverman the Bollocks, que j'écoutais en boucle dans ma chambre. J'avais quoi, 14-15 ans. Premier concert, un des premiers concerts que j'ai vu, c'est Motorhead à Vitrolles. Et moi, j'étais ébahi et je voulais faire la même chose. Donc pour moi, Nitrate, c'était c'était le, ce qui me permettait de faire ça. Puis, on, je sais pas si on avait conscience d'être.
On n'avait aucune conscience de ça,
on
en fait.
Pas
parce
la conscience,
que,
voilà. Je crois qu'on le vivait tout simplement. Parce qu'on était,
on était punk à notre insu.
De, voilà, parce que le fait,
dedans, quoi, ouais.
Voilà, le fait de ne pas savoir jouer, c'était assez bizarre. Parce que, ben justement. Rossi donc qui était là tout à enfin qui était là on se connaît depuis longtemps parce que c'est une longue histoire entre Nitrate et Cartinor quoi et donc voilà quoi eux ils savaient admettons super bien jouer c'était des super bons musiciens mais nous non on ne savait pas jouer mais nous on s'en foutait royalement parce que nous le but c'est de faire des chansons rapides enfin foutre le souk. Et c'est vrai qu'on finissait rarement les concerts, c'était la panique totale, je veux dire. Après c'est pas nous qu'on le voulait spécialement, quoique si des fois on arrivait sur scène, on était dans des états pas possibles, je veux dire, le public, il était comme nous. En fait, on voyait pas la différence entre le public et nous, en fait. Le punk, c'était ça aussi. Parce que les gens qui étaient sur scène étaient les mêmes que ceux qui étaient dans la salle. Le look, c'était le même. Les gens, c'était les mêmes. On aurait pu faire des trucs interchangeables, quoi. Et
C'est arrivé.
Bon, et c'est arrivé. C'est arrivé à la fête de la Marseillaise où on s'est retrouvé. Il y avait pas Rémi, il était pas encore là. On s'est retrouvé avec un batteur qu'on connaissait pas. Le mec a dit, je viens jouer avec vous. Ouais, ok. Et en fait, bon, ça a été terrible parce qu'on a fait n'importe quoi. Parce qu'en fait, je crois qu'il y avait officiellement deux musiciens de Nitrate. Il y avait que moi, en fait. Et donc, j'étais seul à la basse, je suis tombé de scène dans mon ampli, les dockers, le service communiste nous a mis dehors, voilà, et c'était juste après un concert de Juliette Gréco, voilà. Et donc, c'était assez étrange, parce qu'on ne savait pas pourquoi on s'est retrouvés sur scène. Je crois que ça a été un acte très très punk, parce qu'en fait, l'ami qui est maintenant décédé, qui était photographe, qui a dit qu'on allait s'appeler Nitrate, avait demandé gentiment à un stand du Parti communiste un mégaphone pour, parce qu'il n'y avait pas de micro pour chanter. Et il a commencé à chanter, bon, tant bien que mal, le fameux morceau « Quand je marche dans la ville », avec les paroles qui se rappelaient, parce qu'il n'était pas le chanteur du tout. Et en fait, il a commencé à dire « Enculé de communiste, on vous emmerde, on vous encule, on fait tout ce que vous voulez ». Et là, ça a été très... Et là, on s'est fait foutre dehors, voilà, on s'est retrouvé dehors, puis on a fini de se saouler dehors, quoi. Je veux dire, voilà, Manu Militari, ils étaient costauds quand même. Bon, nous, on était teigneux, mais eux, ils étaient costauds. Alors, je sais pas qui c'est qui aurait gagné en cas de vraiment de grosse bagarre, mais enfin, ça va, on était teigneux. Voilà. Et donc, c'était ça, voilà, le punk à Marseille, c'était ça aussi. Voilà, parce que... pour parler de Nitrate, on est allé au bout de tout. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens maintenant qui connaissent le punk, qui en parlent. Voilà. On a fait beaucoup de grosses conneries, mais jamais en étant méchants. Et surtout, on avait des morceaux qui parlaient de nous et qui parlaient de la ville. Voilà, donc...
Dans l'attitude, Nitrate était plus punk que Cop St. Robbers. Eux, ils cassaient tout. Enfin bon, c'était non, mais même ça, ils faisaient peur à plein de gens, quoi. Hein.
Oui, c'est vrai, ça c'était.
Alors nous, par contre, vous avez noté un truc, c'est l'association.
Il y avait une légende qui tournait.
Patrick Capodi, il pensait les choses, hein, bien. Et donc c'est lui qui a tenu à monter cette association. Et je pense que ça, c'était un truc fort pour Cop St. Robbers, parce que cette association, elle nous a servi. On s'en servait pour organiser. On a fait venir télévision. Le groupe télévision, on pouvait jouer en première partie puisqu'on avait une association loi 1901. Et je pense que ça, c'est un truc qui a porté après. Il y a plein de gens qui ont monté des associations. Alors maintenant, il y en a partout des associations. C'est un peu.
Et nous, c'est quand même grâce à vous qu'on est rentré dans un studio quand même. Parce que Nitrate, c'était parce que vous aviez signé un contrat avec
Marc
Zermati. Vous nous l'avez présenté, il nous a financé une maquette quand même. Mais nous, on est allé enregistrer ça. Je sais pas,
en fait, on n'a pas. Au début, on n'arrivait pas à l'enregistrer, la maquette, parce qu'on était vraiment encore trop mauvais, quoi. C'est terrible, quoi. Je veux dire, la première fois qu'on a fait du studio, moi, je me rappelais toute ma vie parce qu'il y avait Rémi dans la cabine.
Moi, j'aime pleurer.
Moi, j'étais à la basse. Je veux dire, j'avais une précision, une Fender précision, j'avais l'impression d'avoir une Rolls Royce. Je me suis dit, mais voilà, j'avais peur de la toucher. Et le gars, il nous dit, on va faire basse batterie. Nous, on n'avait jamais fait ça de notre vie, basse batterie tout seul. Et comme il y avait les intros de guitare, elles n'y étaient pas, on ne comprenait pas comment il fallait démarrer. Je veux dire, c'était hallucinant, quoi. Rémi, il a jeté les baguettes, il est parti dans la rue, il a fallu lui recourir après. Je veux dire, c'est, on était vraiment très mauvais.
Pierrot, ça veut
dire, musicalement, on était très mauvais, quoi, je veux dire. Mais on faisait quand même des bons morceaux. Et ça, faut jamais l'oublier, parce que les punks, ils étaient mauvais musicalement, mais ils savaient quand même composer des hymnes. Et ça, c'est fort. Voilà. À la différence, peut-être, effectivement, des très grands musiciens, progressifs, ou tout ce que vous voulez, mais personne, il s'en rappelle des morceaux. En 2-3 minutes, un morceau punk, il fallait qu'il tape dans la tête, quoi. Et voilà, c'est comme ça, quoi. Après, moi, ça reste dans l'histoire, paraît-il.
J'ai gardé un peu ça, d'ailleurs. Quand je compose, j'aime bien faire des morceaux courts et des thèmes qui soient concentrés, quoi. Je veux pas dire que... Hein.
Alors, pour illustrer un peu, on a trouvé une archive de Nitrate qu'on va passer. C'est la seule qu'on a trouvée par l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel.
Un exemple dans la région, Nitrate, du rock dur, mais du rock français. Nitrate, et c'est eux qui le disent, ont mauvaise réputation. Cela ne les empêche pas de jouer bien et juste. Dans le milieu du rock, on les considère du reste comme l'un des meilleurs groupes de la région dans leur style.
Ouais, c'est en 83, ça. C'était la fin de Nitrate, ça. C'était plus vraiment du punk musicalement.
On s'est tous arrêtés de boire. Je sentais une drôle d'histoire. Suzy a jeté sur la table des billets. Elle a payé tout ce qu'on devait pouvoir. Pourquoi? Suzy a jeté sur la table des billets. Elle a payé tout ce qu'on devait pouvoir. Pourquoi? Gisèle le nous a invités. Comme on était fauchés, on a accepté. Sur le canapé, un drôle de chat nous regardait. Dans ses yeux, le diable se cachait. Suzy lentement s'est déshabillée. Elle a rejoint le chat sur le canapé. Pourquoi? Pourquoi? Suzy lentement s'est déshabillée. Elle a rejoint le chat sur le canapé. Pourquoi? Pourquoi?
Il m'a taxé le riff.
Elle n'aurait jamais dû nous provoquer comme ça. Ce soir-là, on avait peut-être un peu trop bu. On a violé la fille et massacré le chat. Elle n'aurait jamais dû nous provoquer comme ça. Suzy, depuis la rate, plus délivrée. Elle hurle sans cesse sur les toits. Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait ça? Suzy, depuis la rate, plus délivrée. Elle hurle sans cesse sur les toits. Mais pourquoi? Pourquoi?
Voilà. Alors, pour la petite histoire, ça a été FR3 qui a fait ce clip. Et en fait, là, ce que vous entendez, c'est un live. Parce qu'en fait, on était un des rares groupes, on n'avait pas une démo, un enregistrement pour faire un playback. Donc ça, c'est du live. Et on avait joué deux morceaux. Et ce que vous voyez quand on est dans une sorte de boîte, c'était la fameuse boîte Le Faust, un lieu mythique du rock à Marseille. Voilà. Donc... où on avait joué d'ailleurs avec Nitrate, et le concert, effectivement, il n'avait pas terminé. Ça s'était pas terminé parce que ça s'était fini aussi en bagarre. Voilà, donc, voilà, parce que c'était tenu quand même par des voyous, Le Faust. Je veux dire, donc, ça s'était relativement mal fini entre Nitrate et les voyous du Faust. Donc, voilà. Voilà, donc voilà, ça c'était un document un peu spécial parce qu'en fait, c'était, on va dire que c'est sur la fin de Nitrate quand même. C'était. On avait un petit peu passé, disons, l'époque morceau de 2 minutes à 2000 à l'heure, et là, on partait dans un délire que moi je trouve quand même intéressant, hein, forcément, on reniera jamais rien dans Nitrate, nous. Mais voilà, c'était plus le punk speed de ce qu'on faisait. D'ailleurs, il y a très peu d'images de ça.
Sur la fin, c'était un peu speed.
Ouais, pour rappeler un petit peu aux gens, mais il y a très peu d'images de Nitrate, disons, en concert de la grande époque où vraiment on cassait tout, que c'était la folie totale, voilà. La seule personne qui en a, malheureusement, il est décédé la semaine dernière. Et on ne sait pas si un jour on verra ces images. Voilà. Voilà, c'était le croqueur d'images. Pour ceux qui le connaissent, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Voilà. Voilà, il est décédé la semaine dernière, donc peut-être qu'on ne verra jamais ça. Voilà.
Franca, tu nous parlais de la rencontre avec Marc Zermati, qui avait le label Skydog à Paris. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus?
Alors, moi, Marc Zermati, je l'ai rencontré quand j'étais en fac à Aix-en-Provence. En fait, je me baladais dans les rues et j'ai vu des affiches d'un concert qui avait lieu dans une église. Alors, ça m'a interpellée et je suis allée voir, c'était Taïla Gang, ou Sean Taïla, quoi. C'était un groupe de pub rock anglais. Et je suis rentrée là-dedans et ils m'ont fait le tatou sur le front rock'n'roll, quoi. Hein. Voilà. Et donc, moi, Marc Zermati, je l'ai toujours côtoyé, mais c'est Patrick qui a fait la démarche d'aller le voir à Paris pour lui faire écouter les bandes. Sur quoi il nous a signé? Sur Underdog à l'époque. Il avait une maison de disques avec Dominique Lamblin. Mais voilà, on a été enregistré à Paris, on a déjà fait une maquette. Et puis les bandes ne sont jamais sorties puisque la maison de disques a splitté au moment où notre album devait sortir. Et grâce à l'association Mémoire Neuve, l'album est sorti donc en 2013. Il y a donc 8 titres qui sont sortis chez Mémoire Neuve, c'est Cops and Robbers, c'est l'enregistrement qui avait eu lieu dans les années 80, quoi. On a fait quelques concerts au Rose Bonbon, et voilà, quoi. Mais moi, Marc Zermati, je suis toujours ami avec lui, il m'a signé en édition, ce qui me rapporte aucun argent, quoi. Mais voilà, c'est juste pour la gloire, quoi. Et là, il est très malade, quand même. Je sais pas si ça a des gens que ça intéresse, mais il est à sa fin, Marc Zermati, quoi.
Marc Zermati, c'est celui qui a donc créé le premier festival punk au monde, le festival de Mont-de-Marsan. Voilà, c'est grâce à lui.
Alors on va
il avait créé aussi l'Open Market, qui était punk dans l'idée, quoi, parce que ça n'existait pas. Punk, c'est aussi être inventif, être explosant de nouveautés, quoi. Voilà.
Je profite du passage dans les années 2000 parce qu'en fait, Brigitte aussi, Martin Dupont, depuis les années 2000, connaît une espèce de nouveau souffle. Donc après une invisibilité pendant de nombreuses années, donc il y a un renouveau au niveau États-Unis, au niveau utilisation aussi de certains musiciens, de certains sons. Je pense à Tricky. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette nouvelle vie?
Alors, pour rebondir sur Tricky, il y a 3-4 ans, j'ai l'album là, j'ai amené des reliques, je dis on sait jamais, on va illustrer avec quelques reliques, je les sors au fur et à mesure, et voilà, donc Tricky s'est servi du sample de Just Because, de l'intro d'un titre qui est très joué, qui est un des morceaux les plus... jouer. Il a pris juste l'intro qui est sur deux mesures, enfin, qui est une ligne de synthé assez ténue, assez même pas du tout sonore, quoi, hein, qui est juste une petite mélodie comme ça qui arrive. Et Tricky l'a utilisé dans un morceau d'un album qu'il a sorti il n'y a pas longtemps, en fait. Donc, J'essaie de retrouver. Voilà. Hop. Je dis que ça allait meubler un petit peu la table, hein, vide. Voilà l'album de Tricky avec un bout de mélodie de Martin Dupont, on va dire, volé. Donc, notre petit label qui est à New York, qui s'appelle Minimal Wave, c'est un tout petit label indépendant qui a fait la démarche d'aller vers le groupe pour dire, voilà, je vous veux dans mon catalogue. Donc, Véronica Vassica de Minimal Wave, en 2000, est allée voir Alain Séguir à Cherbourg pour écouter toute la production du groupe. Production arrêtée en 87, puisque les 60 chansons qui ont été éditées et enregistrées, tout est pour tout, plus quelques inédits qui restent encore sur des cassettes. Bon, il y a 60 chansons. Donc, ces 60 chansons, elle a voulu les rééditer. Elle a fait un coffret avec 5 vinyles qui est sorti fin 2018. Voilà. Mais entre-temps, il y a eu un coffret avec un label français qui s'appelle Infrastition. Et pour revenir à Tricky, en fait, quand Véronica du label est allée vers sa maison de disques en disant « Mais vous êtes servie comme ça, sans demander ?» On va essayer de faire ça dans les règles. Il a complètement flippé. Enfin, Tricky lui-même a dit on enlève tout. Ils ont retiré tout ce qui est numérique. En fait, ils l'ont remplacé par une autre mélodie. Mais moi, entre-temps, j'ai acheté l'album, donc je peux prouver que le sample y est. Voilà. Et on trouve encore sur Internet des zones numériques qui n'ont pas été effacées. Donc, nous, on est toujours surpris et on est quand même très occupés par nos vies et par d'autres choses. On a toujours des échos comme ça qui nous reviennent, mais 30 ans après, c'est assez magique, quoi. C'est une sorte de reconnaissance, c'est gratifiant, surtout que moi, la reconnaissance, je suis née avec ce chaos d'origine arménienne, il faut que je sois reconnue, n'est-ce pas ? Sans reconnaissance, j'ai pas d'existence. Donc, c'est une forme de pathologie, même. Donc, c'est vrai que cette reconnaissance-là, elle fait chaud au cœur. Et puis, aujourd'hui, on a une demande du label de travailler sur une scène pour faire une réunion, dans le sens anglo-saxon de réunion, et faire une date à Brooklyn, dans un monastère. Alors là, on n'en sait pas plus. Il paraît que c'est un lieu très branché où c'est des moines qui servent à boire au bar. Donc, voilà, surprise.
Alors, on avance un peu dans l'entretien. Avant de vous poser la question de ce que vous faites aujourd'hui, comment tout cet héritage et ce passé punk continuent aujourd'hui à travailler, est-ce qu'il y a d'autres points, peut-être, voilà, sur le début des années 80 ?
Moi, j'aimerais juste rajouter un truc, de voir Best, ça m'y fait penser, c'est qu'on était aidés par les musiciens de Nice aussi. On était amis avec les... comment s'appelait ce groupe-là ? Les bandits, les bandits, et puis les autres aussi, toute une bande de mecs, quoi. Et Yuri L'Enquête, qui faisait des photos, qui était journaliste à Best, qui a sorti un article, et ça nous a, voilà, c'était, à l'époque, c'était, parce qu'il faisait, à l'époque, il faisait des articles par région. Voilà.
Marseille, première ville de rock, non, c'était pas ça.
Ouais. Voilà. Mais nous, c'était dans le rock à Nice qu'on a été programmé.
Ok. Alors, ouais. Moi, j'ai une toute petite question sur Nitrate. On parle de la légende Nitrate, et notamment par rapport au graffiti. Qui les faisait
C'est nous.
C'est vous.
On faisait des opérations, on partait la nuit, avec des bières, tout ce qu'on
voulait. On zonait en centre-ville, on était toujours entre le taxi-bar, la brasserie de Lyon et les escaliers du lycée Thiers. Et puis, on vidait des bouteilles de Valstar, on était là, on emmerdait les gens qui passaient. On était punk même dans la vie, hein, de tous les jours. On n'avait jamais de sous, donc on allait piquer les sandwichs, les pains au chocolat.
Faisait des grosses razzias à la fameuse brasserie qui est à la Valentine. On avait compris comment récupérer les bières et on faisait le mur tous les soirs, enfin très souvent, et on allait piquer énormément de bières dans la brasserie de la Valentine. Quoi. On leur a taxé je ne sais pas combien de litres de bière, enfin de dizaines de litres de bière, ça ne s'est jamais rendu compte.
Et
nous, après, on allait se saouler et on faisait des. Alors, on disait pas des tags à l'époque, on disait des bombages, parce que c'était avec une bombe, donc forcément. Voilà.
Et on répétait dans les caves des bars. On répétait dans la cave du bar français.
On répétait dans une cave de bar au boulevard, c'est pas le Garibaldi,
boulevard d'Athènes.
Boulevard d'Athènes. Et en fait, et c'était les prostituées qui nous faisaient à bouffer. Elles étaient adorables. Non, mais c'est délirant, quoi, je veux dire. En fait, elles étaient aussi punk que nous, quoi, les prostituées. Voilà, nous faisaient des super pâtes et nous, on bouffait en bas avec elles, quoi, on répétait. On a volé même un local, quoi. On allait répéter à un moment donné avec un des premiers guitaristes. On a répété dans un local qui n'était pas à nous, en fait. Je veux dire, il y a longtemps de ça. Ça, il y a très longtemps. Donc, les gens ne se sont jamais rendus compte. Voilà, on a allé répéter. Puis, hop, on est reparti. Ils se sont rendus compte qu'on leur avait un peu emprunté le local. C'était avec Dominique, ça, tu sais. Voilà, le fameux... Mais bon, des anecdotes, il y en a des centaines. Bon, sur un groupe comme nous, parce qu'on était dehors, nous, je veux dire, on était tout le temps dehors. Je veux dire, on avait des cyclos, on partait avant d'avoir des motos, voilà, donc c'était notre
vie. On avait réussi à faire la première partie de Téléphone à Strasbourg aussi.
Voilà, alors notre moment de gloire, paraît-il, ça a été le concert de Téléphone à Strasbourg qu'on a arraché à Ravard, qui était le manager, parce qu'on voulait le faire à Marseille, nous, en fait. La première partie de Téléphone, on savait qu'il allait y avoir énormément de monde. On s'est dit, bon... il faut y aller, parce que là, il faut qu'on fasse la première partie de Téléphone. Mais nous, on ne savait pas comment ça allait se passer. On ne savait pas qu'il fallait passer par-ci, par-là. Donc, on est carrément arrivé aux balances. On leur a dit, écoutez, on veut faire votre première partie. Et Aubert et Bertignac, ils ont regardé bizarrement. Et est arrivé le manager. Il a voulu nous foutre dehors. On a dit, non. On veut faire. On est le groupe le plus timbré de Marseille. On veut jouer en première partie de Téléphone. Et il y a eu... C'est, bon, ça s'est un petit peu... chauffé, et à un moment donné, et ça je reconnais que quand même c'est incroyable, il arrive, Aubert, il vient vers nous, il nous dit, écoutez, on joue à Strasbourg, dans 15 jours je crois à peu près, c'est 3 semaines, enfin, je ne me rappelle plus, il nous dit, si vous êtes à Strasbourg le jour du concert, vous faites le concert. Et Ravard, il fait métier fada de lui dire ça, il dit, non, moi je le prends sur moi, ces mecs, s'ils vont, ils viennent jouer, ils vont jouer. On a tapé comme ça, on a dit, on montera jouer à Strasbourg, on est monté jouer à Strasbourg. Et ils n'en revenaient pas, on était là, quoi. Ils nous ont accueillis vraiment comme des rois. Ils ont déliré avec nous. Et donc, on a fait la première partie. Il y avait énormément de monde. Et évidemment, ça ne pouvait pas se terminer autrement. Et on s'est fait foutre dehors par le service d'ordre. Pendant que Téléphone nous proposait leur tournée 10 dates avec eux derrière, on s'est fait foutre dehors parce qu'évidemment, il y avait eu une embrouille la veille avec le service d'ordre. Et donc, il y a eu mâchoire cassée, il y a eu grosse bagarre, quoi. Et on est partis, comme des voleurs, et on ne les a plus jamais revus. Voilà. Voilà, ça, c'était... on partait le lendemain, tournée de 10 dates avec eux. Voilà, c'était en Belgique. Mais le rock'n'roll, c'est ça, c'est-à-dire qu'à l'époque, on était pas naïfs, mais on était vraiment ingérables. Voilà, tu l'as dit, on était ingérables. On n'avait même pas compris qu'ils nous proposaient une carrière, en fait. Et nous... on s'est fait foutre dehors pendant qu'ils jouaient. Et les mecs du SO, ils ont cassé la mâchoire. C'était KCP, c'était tous des fachos. Je veux dire, c'était nous, on se battait constamment contre eux. Je veux dire, c'était gros. On a fait des grosses bagarres contre KCP pour entrer dans les concerts. Et ils avaient beau être costauds, mais nous, on était ténus et nombreux. Ils en ont pris des coups par nous, ça, je peux vous le dire. Je veux dire, c'était terrible, quoi. Et là, par contre, ben, comme on dit à Marseille, ils nous ont niqué. Voilà. Là, ils nous ont niqué et on est rentré et on a perdu notre producteur et tout ce jour-là. Bon, mais ça fait rien. Le rock'n'roll, il a continué. Voilà.
Alors, peut-être sur le présent. Franca, t'as dit que tu continuais, que tu continuais la collaboration avec Marc Zermati.
Moi, je suis toujours vivante. Mes amis sont morts. La seule chose qui me reste à faire, c'est jouer jusqu'au jour de ma mort, quoi. Voilà. J'ai pas d'autres projets, là. Je joue. J'ai un groupe qui s'appelle Franquistadors. Vous pouvez aller voir. J'ai 17 titres en écoute sur Internet. Faut pas oublier le K et le S à la fin. franquistadors.com. Et là, je suis en train de sortir un 8 titres. Mais là, j'ai du mal à le sortir, le 8 titres, quoi. C'est un album, c'est toujours difficile à accoucher, quoi. Il y a toujours des corrections à faire et tout, quoi. Mais je fais des concerts, voilà. Par contre, je n'ai pas de label, je n'ai pas de maison de disques, j'ai pas de tourneur. Mais je suis pas la seule. En France, il y a des groupes très bien qui n'ont pas de tourneur. Donc voilà, c'est un peu un projet solitaire, on va dire. Hein. Mais je reste punk dans l'esprit, quoi.
Chris, c'est Belphégor's, sous la forme de Belphégor's. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Belphégor's, c'est un peu l'enfant de Nitrate, en fait. Voilà, il s'est passé beaucoup d'années. On a tous eu plein d'expériences, donc on a fait beaucoup de choses. On n'a jamais arrêté la musique, on a toujours continué, que ce soit Rémi, Alien, donc les Nitrates, quoi. Parce que les Nitrates, il n'y avait pas que les musiciens, il y avait aussi tous les potes, tous les amis qu'on appelait les Nitrates, et qui sont toujours là aussi, d'ailleurs. Voilà, on ne s'est jamais quittés tous. Et donc, Belphégor's, donc c'est né... presque sur un gag, quoi. On avait eu des soucis avec le groupe d'avant qui était Lady Godiva. On avait sorti deux albums dans deux labels différents. On avait même été disque du mois dans Rock and Folk. Ça a été oublié de le dire, mais c'est pas grave. Je veux dire, et qu'est-ce que je veux dire aussi, c'est que quand on a fait Belphégor's, on en avait plein le dos de un petit peu de tout ça parce que c'était compliqué. On a voulu revenir aux sources et on a démarré en faisant que des reprises punk. Mais punk originel, c'est-à-dire 76, 77, et on jouait pas de morceaux des Pistols, on jouait que des morceaux de groupes punk, à la limite, les moins connus. Voilà. Donc, voilà. Et donc, c'est parti comme ça, ça a pris la sauce, et puis ensuite, bon, évidemment, on a recomposé on a fait des morceaux, voilà. Et donc, on a sorti en avril le premier album de Belphégor's, chez Closer Records, donc, Philippe Debris. Donc, dont il y a un représentant ici, Jack Menand, donc qui est un label assez mythique. Donc, on est très fiers d'être sur ce label. Et bon, ça va, quoi. Le groupe est bien coté. Bon, voilà. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est comme ça. Voilà. Et on joue beaucoup. Et ça, voilà. On vient de faire un clip. Et ça continue. Nous, on continue. Il n'y a rien qui nous arrêtera. Voilà. Rien. Voilà. C'est comme ça. Je veux dire. Ouais, il y aura peut-être une surprise dans pas longtemps pour Nitrate, voilà. Voilà, ça, voilà. Parce qu'il y a eu, on a oublié de dire que Nitrate a fait une grâce au livre de Rossi. Ce livre-là, en fait, il a fait que des gens nous ont demandé qu'on se reforme et on a fait une énorme soirée il y a 2 ans au Poste à Galène, qui est maintenant le Makeda. Et ça a été une soirée extraordinaire où il y avait Franca, donc, avec les Franquistadors, il y avait les Bootleggers, un des putains de bons groupes de rock marseillais. Je veux dire, faut pas les oublier, les Bootleggers. Et il y avait, donc, avec Nitrate, on a rendu un hommage à Wildchild, qui est le plus grand groupe de Marseille, celui qui est allé le plus loin. C'est Wildchild, faut pas l'oublier. Faut jamais oublier Wildchild, parce qu'ils ont fait des grosses télés, ils ont tourné dans toute la France, ils étaient sur une major. Et ils ont refusé de devenir un grand groupe à la téléphone, parce qu'ils ont dit non, nous on chantera pas en français, on chante en anglais. Et donc ils ont perdu un petit peu leur carrière comme ça. Et donc on a fait un hommage sur, on a joué 3 morceaux de Wildchild, donc, parce qu'il restait que Leroy, le guitariste, donc avec Rémi, et moi à la basse, donc, et Max au chant. Et ensuite on s'est réunis pour faire un hommage à Fifi de Leda Atomica, où on a joué Marseille Bouge de Vieille. Effectivement, là il y avait tous les Nitrates, plus Leroy qui était venu. Et ça a été une grosse fiesta, ce concert. Et il y avait beaucoup, 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 beaucoup de monde. Voilà. C'était le voilà. Il y a eu pareil donc par rapport au second livre qui a été donc écrit il y a quelque temps. Voilà. Bon, ça continue toute cette histoire. Mais après, bon, comme je dis, il faut continuer, mais sans trop se prendre la tête non plus. Voilà. Voilà. Qui comprendra, qui voudra. Voilà. C'est comme ça, quoi. Mais il faut surtout écrire des bonnes chansons. Écrivez des bonnes chansons, après on verra. Voilà, moi je dis ça comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas être jaloux des gens. Jamais.
Mais d'ailleurs, Joe Strummer, il dit que être punk, c'est se préoccuper de... Enfin, c'est pas tout à la bonne phrase, quoi. Ben c'est se préoccuper de l'humain autour de soi, quoi. C'est bien loin de critiquer ou de jalouser, quoi. C'est justement se situer, prendre. Et,
il a dit qu'on s'occupait de l'humain de manière à chaque fois exemplaire. Exact, voilà, c'est le mot, voilà. Exact.
Mais ouais. Enfin, c'est un monde où ça, même hors punk, ça n'existe
pas. Oui, mais bon, ça engage que Joe Strummer. Mais je pense pas qu'à l'époque, ouais. La préoccupation des punks, ouais, c'était bien.
D'accord.
C'était plutôt le bordel. Il faut dire les choses comme elles étaient.
Mais il fallait foutre le bordel. Normalement, on devrait mettre le bordel. Là. Non, normalement, c'est ça, quoi. Voilà, on est des punks. Alors, ou pas, quoi. Qu'est-ce qu'on fait?
Mettons le bordel tout de suite.
On devrait être des fracassés.
Ah, mais parce que... Et je t'avais pas vu. Et il a été... Alors lui, il a tenu un lieu punk à Paris qui s'appelait la Miroiterie. T'as fait passer combien de groupes? C'était tout le temps le feu dans ce squat.
Pour moi, le punk, parce que j'ai beaucoup été imprégnée, j'ai beaucoup écouté de punk. Évidemment, j'étais sans dire que j'étais punk, comme tout le monde d'ailleurs. Hein. Personne n'a dit « Ah, je suis punk ». Mais l'ADN, il est là, en fait. Hein. Moi, j'ai écouté Crass jusqu'à user les vinyles, quoi. C'était mon hymne, c'était cette chanson chantée par cette voix féminine tellement aérienne et complètement... terrible, quoi. Pour moi, Crass, ça reste vraiment dans mon cœur. Et puis, il y a des groupes vraiment punk comme Wire, qui pour moi symbolisent quelque part mes goûts vraiment personnels, parce que Wire, c'était un groupe punk, mais qui a été aussi un groupe post-punk. C'est-à-dire qu'en lui, il porte l'ADN du punk et du post-punk. Et Wire, je les adore et je les écoute encore aujourd'hui. Et ça accompagne ma vie. C'est la BO de ma vie, quoi, Wire. Et en même temps, les Buzzcocks, télévision, enfin, tout ce qui est Howard Devoto. Fin...
X-Ray Specs.
Mais oui.
Polystyrène.
X-Ray Specs, c'est la première fois où j'ai sauté au plafond en écoutant de la musique punk rock. J'ai dit, mais c'est ça, quoi. Et puis, je m'identifie à fond à la chanteuse. Et parce qu'on a besoin, en fait, on s'identifie toujours. Et puis cette manière de dire, ben moi, je dis non, et je dis merde, et je dis fuck off. Je dis fuck off et à tout ce qui est de la masse, de la culture de masse, des masses médias, de ce qu'on entendait dans les... on avait avant les radios libres, mais c'était la misère totale. Il fallait chercher dans des bacs, aller voyager pour trouver de la musique à écouter. Oui, voilà. Earth, Wind and Fire, c'était écoutable, hein, oui. Les Stones, mais enfin... Moi, gamine, ça a commencé à 5-6 ans. C'était Painted Black, des Stones. Et c'était les 45 tours offerts par la station-service Antar, pour ceux qui sont assez vieux pour se rappeler de ça. Et en même temps, parce que je vivais chez ma grand-mère, il y avait ma tante qui écoutait donc les Stones, Painted Black... Ma grand-mère qui écoutait de la musique turque, arabe et arménienne, la musique égyptienne sur le poste à ondes courtes. Alors, et puis le grand-oncle qui écoutait des radios aussi pas possible. Donc à la maison, je pouvais entendre mixer Painted Black avec de la musique égyptienne ou grecque, du rebetiko. Le rebetiko, c'est la musique punk des Grecs, il ne faut pas l'oublier. Aussi. Donc le punk existe depuis la nuit des temps, puisque c'est une forme de dire merde à la culture dominante et de se libérer de ce poids de la tradition qu'on ne veut pas. Ta tradition, invente-la toi, parce que ce que tu vas inventer aujourd'hui sera la tradition de plus tard. Donc c'est comme l'histoire des archives aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes en train de fabriquer les archives de demain, donc fabriquez le plus possible et laissez des traces.
Mais je pense qu'il faut pas trop intellectualiser tout ça quand même. Hein. Je veux dire, c'était quand même un gros délire. Je veux dire, voilà quoi. Là, tu as raison de ce que tu dis, mais honnêtement, je veux dire, faut pas intellectualiser. Moi, je trouve que bon, c'est sympa là, ce genre de colloque, mais non, faut pas intellectualiser. Je veux dire, quand c'est né, on a foncé droit dans le mur, voilà. On se l'est pris, hein, le mur, pas de problème. Mais on y a foncé dans le mur. Voilà, on y est allé, voilà. Voilà, s'il faut parler de punk, c'est que les punks ne comptaient pas vivre très vieux, je veux dire. Moi-même, je suis très étonné d'être là, quoi. Je comprends pas.
Moi aussi.
On comprend pas. Voilà, désolé qu'on est là. Voilà. Et si ça fait chier des gens, mais c'est pas grave, quoi. Mais on est toujours vivant. Voilà. On est peut-être à une erreur pour le punk, hein, parce que normalement, on ne devrait pas être là. Vu tout ce qu'on a fait, toutes les conneries, tout ce qu'on a incurgité à une époque, voilà. Mais on est bien, pas trop mal. Moi, j'ai 59 ans, ça va, je me considère... je suis content de ma vie, quand même, tu vois. Voilà, mais non, mais c'est vrai, parce qu'on ne devrait pas être là, quoi. Voilà. On ne devrait même pas parler là. Ça ne devrait même peut-être pas exister, ça. Alors, voilà, donc, No Future, ok, on a eu un futur. Peut-être on en a encore un.
Nous, c'était No Future, quand même, au niveau de la dope, quoi. Mais... Ah ouais, ça, c'était pas bon, quoi.
Parce que Marseille, il ne faut pas oublier, quand même, ça traverse
Alors, peut-être que je peux passer le micro s'il y a des commentaires ou comme ça, on voilà.
Oui, bonjour. Moi, pour moi, dans le punk, ça toujours, j'en ai pas fait partie. Ça, c'est une chemise que m'a filé un copain d'Angleterre. Il y a encore un peu de sang dessus. Je l'ai jamais porté, mais bon. Voilà, tout ça pour dire que dans ma tête, c'était toujours quelque chose qui devait rester 6 mois, quoi. À la base, on était parti là-dessus, quoi. Moi, j'ai vu les Sex Pistols sur scène à 15 ans. Voilà, quoi. C'était n'importe quoi. C'était désordonné. Mais bon, ça devait pas rester le punk. C'était un passage. Mais d'un seul coup, il y a eu des fringues. Il y a plein de trucs. Donc le business, il était bon, quoi. Mais bon, l'essentiel était fait. C'est qu'il y avait de la rupture par rapport aux bananes, aux bananos, au rock'n'roll, au major. Et ça donnait une multitude de bonnes choses juste après, quoi.
Moi, je le rappelle encore une fois, Cops and Robbers, on n'a jamais joué du punk.
Oui, non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi.
Voilà, et on était punk, ça correspondait à la période à l'époque. Mais...
À l'époque, il n'y avait pas le droit pour écouter du punk. Il y avait, si on voulait trouver un disque, il fallait aller à la FNAC en écouter. La seule boîte où on pouvait aller, c'était la Guinguette qui était au-dessus d'Avignon. D'accord. Il y avait la Grignothèque qui passait un petit peu du punk en fin de soirée à Aix. Autrement, le punk sur Marseille et sa région, il n'y en avait pas. On était à Marseille, vingtaine de punks.
Nitrate, ils étaient punk dans leur musique.
Non, mais c'est pas de ça que je parle. C'est que depuis tout à l'heure, on parle de Marseille, mais je veux dire, le punk, c'est vrai que c'était du rock. C'était, être punk à Marseille ou dans la région, c'était très compliqué parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de culture.
Ah oui, pour jouer, il n'y avait rien, ça c'est vrai.
Première des choses. Deuxièmement, ce qu'il faut dire, c'est que le seul pub qu'il y avait à Marseille à l'époque, qui existait, il existe toujours, c'était le Kilt. Donc les premiers punks se sont retrouvés au Kilt et à la Brasserie de Lyon.
La Brasserie de Lyon, ouais, c'était notre QG.
Et après, il y avait le Taxi Bar, c'était un peu plus rocker, un peu plus biker. C'est ça. Mais le mouvement punk, je veux dire, à Marseille, il est né, véritablement, il est né pratiquement quand le mouvement punk en Angleterre est mort. C'est-à-dire qu'en gros, le mouvement punk, il est mort en 79, pour moi. Parce qu'après, l'uniformisation du punk telle qu'elle a été faite après, avec l'Iroquois, les Doc Martens, où tous les punks se ressemblaient, c'était en gros comme des skinheads, mais avec un Iroquois. Là, pour moi, le mouvement punk, c'était 76-79, là où tu t'habillais, tout le monde est habillé différemment.
C'est ça.
On se fabriquait les fringues parce qu'il n'y avait pas de magasin. On parlait de magasin tout à l'heure. Il y avait peut-être un ou deux magasins à Marseille qui...
À côté du lycée Thiers, il y en avait un.
Des badges ou des trucs comme ça.
Nous, on allait à Paris, au puce de Clignancourt ou en Angleterre acheter des fringues.
C'est pas grand-chose, c'était cher. C'est-à-dire, quand on arrivait à avoir des fringues, c'est qu'il y a un mec qui montait à Londres, qu'on arrivait à braquer pour pouvoir lui piquer des trucs. Il faut dire les choses comme elles étaient.
Un exemple du punk.
Non, mais c'était comme ça. À Marseille, il n'y avait rien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que être punk à Marseille, c'était très compliqué. Moi, les premiers punks que j'ai connus à Marseille, c'était Éric Trier et Thierry Copain.
Ah oui, c'est vrai.
Putain, les deux premiers punks que moi j'ai connus, je ne dis pas
Thierry Copain. Ils avaient un groupe Dustbin Radiation.
Thierry Copain. Malheureusement, ils ne sont plus là aujourd'hui, les deux.
Avec Steph. Après,
Stéphane, ils avaient le groupe qui s'appelait Dustbin Radiation. C'était un vrai groupe punk pistolien. Ils ont fait deux concerts, je crois.
Et ils avaient monté après Enola Gay.
Ah, ça je m'en rappelle.
Si, il y avait Enola Gay. Il y avait plein de petits Enola groupes Gay, à Marseille.
Ouais. Par contre, il y avait
le Motomu Punk Rock, donc moi je faisais partie. Il y avait... Mais c'est des groupes.
On Game Over aussi.
On n'arrivait pas à jouer tous ensemble. On foutait trop le bordel. Donc il y avait Lobotomie, il y avait Enola Gay, il y avait les Hooligans. C'était un groupe de punk. Il y avait Spigao dedans, tout ça.
Spigao, une punk très jeune de l'époque.
C'était anarchique, Marseille. C'était vraiment très compliqué.
Après, pour les concerts, il y a eu des initiatives. Il y a eu les festivals Rock Against Police et Rock Against Racisme à la Viste. J'ai jamais vu des festivals plus punk que ça. C'était un boxon total.
Mais il n'y avait rien à Marseille, il faut dire les choses comme ça.
Ah non, mais il y avait des initiatives. Il y avait des gens qui...
Parce qu'il n'y avait rien à Marseille, il ne se passait rien. Non. C'est-à-dire que dès qu'on allait quelque part, on nous mettait dehors. Il se passait rien.
Il y avait très peu de groupes, en fait, punk à Marseille à l'époque. Très peu.
Il n'y avait rien pour les punks à Marseille.
Je n'en ai pas trop rage.
Tout à fait. Il n'y avait rien. À Marseille, il n'y avait rien.
Ben oui, mais justement, c'est ça être punk. C'est bouger les choses, quoi.
Marseille, il n'y avait rien. Et là où la ville, ou dans la région, où il y avait le plus de choses, c'était Orange. Moi, je me rappelle, je montais... Il fallait Marseillais monter à Orange ou à Avignon
pour pouvoir écouter du punk et aller des endroits où il y avait du punk.
Il y avait la Gengar.
À Marseille, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Après, c'est arrivé dans les années 83, 84, 82. Mais pour moi, c'était fini. Quoi. Je veux dire, il y a un moment que c'était devenu trop... C'était un mouvement qui ressemblait déjà à tous les mouvements qui existaient déjà. Il n'y avait plus d'intérêt, quoi.
C'est absolument raison dans ce que tu dis, parce que toi, effectivement, tu l'as vécu aussi. Je veux dire, il fallait vraiment, vraiment, vraiment se battre. Avec la voix, mais il fallait se battre aussi avec ça, je veux dire. Parce que franchement, je veux te dire, être punk à cette époque-là, c'était, bon, disons, une suite du rock un petit peu. Les bikers commençaient à arriver un petit peu, il y avait des bikers. C'était très, très chaud. Je veux dire, à l'heure actuelle, moi, je trouve que c'est... Ouh là, mon Dieu, que c'est gentillé. Mon Dieu, il n'y a plus de bagarre. On rentre dans les concerts, on paye. Je veux dire, mon Dieu, c'est bien, c'est bien. Mais pour moi, c'est juste... Pour moi, le punk actuellement est une vague photocopie de ce qui s'est passé. Avant, il fallait le vivre. On s'est pris des balles, nous. On s'est fait tirer dessus. Oh, attention. On s'est fait tirer dessus, nous. Je veux dire, bon, alors, je veux dire, quand tu dis ça, ça fait vieux combattant. Mais ouais, mais on est là pour ça, parce que nous, on fait partie des premiers punks marseillais. Je veux dire, donc, on a essuyé tous les plâtres, nous.
Vers Salon, c'est voilà. Là-bas.
Non, mais je suis d'accord. Ça, je suis d'accord.
Tu vois des punks qui viennent d'Italie.
C'est plus pareil.
C'est du
punk, c'est plus pareil.
Aujourd'hui. Mais c'est les mêmes.
C'est plus simple maintenant.
Je te jure. Enfin, allez-y, quoi. Allez-y.
Mais attends, tu le sais qu'on y va, nous aussi, de temps en temps. Mais ce n'est plus la même ambiance.
Vous verrez des Italiens, vous verrez des. Mais vous verrez des
je suis d'accord.
Partout, quoi. Jouer dans une salle, il y a 10.
Mais ça n'a plus rien à voir. Il n'y a plus le même combat. Je veux dire, avant, il fallait s'imposer. Là, maintenant, les lieux, tu les trouves.
C'est pas vrai.
Maintenant, avant, tu te battais avec tout le monde. Tu te battais avec les rockers, tu te battais avec les bikers, tu te battais avec les arabes, tu te battais avec tout le monde à Marseille. C'est-à-dire qu'il ne se passait pas une journée si tu ne te battes pas. Parce que personne t'aimait. Tu étais différent. Tu
ça a changé. Ça.
Ils
sont vachement plus politisés. C'est vachement plus politisé et ça porte des messages. Nous, à l'époque, il n'y avait pas de messages.
Nous, on n'avait pas de messages.
Maintenant, les mecs, ils sont à Domf, ils portent des messages et ils envoient du lourd. Quoi. C'est des jeunes, ils sont admirables, je te jure. Allez les voir.
Ça n'a plus rien à voir avec l'origine. Ça n'a plus rien à voir. Je suis désolé.
Donc la musique et la politique, elle a pris beaucoup plus de place que le délire complet, voilà. Après, c'est peut-être bien, attention. C'est peut-être bien, parce que de toute façon, les clashs, ils étaient très politisés, je veux dire. C'est pas
le souci, hein.
On le sait. Mais il n'y avait pas que ça, quoi. Il n'y avait pas que ça.
Il y a plusieurs... Le punk s'exprime à l'heure actuelle sous plusieurs formes. Il y a aussi les anciens groupes qui continuent à exister. Et puis, il y a d'autres jeunes groupes, comme ça a été dit, qui ont des formes soit politiques, soit d'autres formes d'engagement. Mais je ne vais pas parler, je vais laisser la parole à une...
Non, c'est simplement pour dire que c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est difficile de pouvoir travailler sur l'histoire du punk à Marseille, je suis d'accord avec toi, et je pense qu'après il y a eu une évolution, donc c'est un peu complexe. Je pense que Marseille, c'est quand même une ville qui était ouvrière dans les années 77-78, effectivement. Moi, j'habitais à La Rose, et c'est le moment où, effectivement, on a commencé, comme tu dis, alors on avait le problème que... Oui, ce que disait Christian à un moment donné, on a été happé d'abord par ces vêtements étranges qui arrivaient d'ailleurs, mais nous, on était des enfants d'ouvriers. On n'avait pas les moyens de s'acheter des Doc Martens, je suis entièrement d'accord avec toi, on n'avait pas les moyens.
Doc Martens, moi, je les ai connus dans les années 80.
Oui, c'est vrai. Mais ça dépendait encore une fois.
Ouais. On a ici, je me rappelle, il y avait un cordon pour acheter les boîtes à main.
Après, on a commencé à construire nous-mêmes déjà, et après on est venu à la musique, tu as raison, on est venu après. Mais à se renseigner, à essayer, on était jeunes, bon, moi j'avais 13 ans et demi, on avait des frères, des sœurs de plus grands, et on essayait de comprendre un peu ce qui se passait. Ça correspondait à un refus de la société, et à un mal-être aussi, parce que c'était dur, tu as raison. Et dans le quartier, je peux dire qu'on était deux, je me rappelle, ma meilleure ami et moi, dans le 13e, il n'y avait pas de punk. Donc quand on a commencé à fabriquer nos colliers avec, pour récupérer les lames de rasoir, les vraies lames de rasoir, hein, c'était pas... et on essayait de trafiquer les épingles à nourrice pour pas trop s'esquinter au passage, donc c'était assez comique. Et je veux dire, on était, c'est vrai, tu as raison, dans une construction, mais on était dans un affrontement. Il fallait traverser tout le quartier quand même, avec tous les jeunes qui disaient, mais vous venez d'où? En plus, on était des filles. Donc c'était, on a nous, sans doute pas vécu les mêmes choses que les groupes, mais c'était dangereux en même temps. Après, ça a évolué. Mais c'est vrai qu'à Marseille, on peut pas dire qu'il y avait... On avait les punks d'Estrangin, bon, c'était après. Mais pour nous, ils apparaissaient encore, alors très sympa tout ça, mais pour nous, c'était pas tout à fait le même milieu, quoi. Donc je pense que c'est intéressant d'entendre un petit peu tout et on comment arriver à récupérer cette histoire et à la rendre au mieux. Je pense qu'il y a une part d'invention, de reconstruction, etc. Mais on constate qu'on n'est pas en opposition. Simplement, il y a une histoire qui évolue au fur et à mesure. Et le départ, tu as raison, c'est ce que tu dis, ça c'est clair. Et après, je me souviens plus, je sais qu'on est... Je me souviens on avait 13 ans, donc on était au fameux La Rose Loclos, le collège, là, qui maintenant s'appelle Stéphane Mallarmé, mais à l'époque c'était le Rodéo, hein, je veux dire. Et je me souviens effectivement à un moment donné qu'on avait été élés par des punks qui nous avaient dit, on va à des concerts à Marseille. Donc on était passé par-dessus les grilles, parce qu'à l'époque, pour nous empêcher de passer par-dessus les grilles, les surveillants mettaient de la graisse sur la grille. Alors nous, évidemment, on avait notre petit matériel pour nettoyer un peu et passer par-dessus. Et là, je me rappelle qu'on a atterri quelque part à Marseille, mais où, j'aimerais savoir, dans une salle qui était fermée, il y avait des groupes de punk pas connus, des jeunes. On n'entendait pratiquement rien à ce qu'ils racontaient, mais enfin bon. Et on était quelques-uns dans la salle, mais où c'était, je sais plus.
Oui, je voulais dire juste un petit mot là, rapide. En fait, le punk, moi, tel que je l'ai vu, tel que je l'ai connu, il n'y avait pas de look. C'était, tu arrives au puce, à poil, et tu repars habillé avec ce que tu as envie. Moi, j'ai vu des punks à Londres, ils étaient habillés avec les fringues de sa grand-mère, quoi. Et c'était des punks. La coupe de cheveux punk, c'est pas la crête, c'est pas le truc. C'est demande à ton pote qui te coupe les cheveux et tu verras que tu seras punk.
Les punks, ils avaient pas à dire au quoi à l'époque. Hein.
Sur les premières générations, c'est ça, la crête n'existait pas.
Il n'y avait même pas les colorants. Je me rappelle, on allait au magasin de Farce et Attrape qui est au cours Lyoto parce qu'on trouvait pas les teintures vertes ou les teintures bleues pour les cheveux.
Et les badges, on est commandés chez, quand il y avait Best et Rock and Folk, chez Harry Cover, donc c'est un jeu de mots, Harry Cover, où on pouvait trouver des disques très rares, des badges et certains t-shirts, mais c'était très très compliqué parce que des fois ils arrivaient, mais très longtemps après. Je veux dire, quand il y avait un badge, que tu le trouvais pas à Marseille, il fallait le commander donc chez Harry Cover.
Voilà. Nous, dans Nitrate, on prenait des capsules de bière, on se faisait des badges avec.
Voilà. Le do it yourself, il a démarré là, quoi. Ça a commencé comme ça, voilà, les capsules de bière. Les fameux docs, ça existait pas, on les trouvait pas. On allait, où tu racontes ce fameux cordonnier qui avait récupéré des tonnes de bottes de l'armée allemande. Qui en fait était aussi de l'armée canadienne, c'était les mêmes. Et comme on était tous ou en cyclo ou en moto, ou de toute façon on n'avait pas d'argent, elles étaient tellement pas chères, elles servaient à tout ces bottes. Elles étaient belles en plus ces bottes. Voilà, c'était rigolo quoi.
Après, il y avait une boutique à la rue de Rome, c'était un couloir où elle vendait que des posters et des badges. C'était une vieille qui vendait ça. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, c'était une boutique, c'était un couloir.
Et il y avait ce magasin qui était dans la rue du Théâtre Français là. C'est une ancienne hippie qui tenait ça, et là il y avait des trucs, des badges, des machines, des trucs comme ça. Et je sais plus ce qu'ils sont devenus ces gens, quoi. Enfin, il y a longtemps de ça, quoi. C'était au tout début de tout ça, quoi. Voilà, ouais, je pense qu'elle doit être morte. Là. C'était une vieille hippie. Non, c'est pour dire aussi que là on est dans le côté historique de la chose. Donc forcément, je veux dire, il y a d'énormes différences de vie, de ressenti par rapport à maintenant.
Surtout par, il faut voir par.
Voilà quoi, donc.
Il y avait trois chaînes, je veux dire, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien. C'est-à-dire que quand tu voulais écouter du punk, c'était pas possible. C'était nulle part.
Et quand tu voulais signer dans une maison de disques, je t'explique pas aussi. C'est pas pareil.
Tu avais Bulldozer à l'époque qui avait sorti un truc, là. C'était. Tu avais des groupes français, mais qui étaient vraiment. Je veux dire, le punk français, il était inexistant.
Parce qu'il y avait dans la rue Mazagran, il y avait un magasin.
Non, pardon. Le punk, en France, il y avait quand même OTH, les Olivenstein, Luke Height Milk. On ne peut pas ignorer quand même des groupes phares du mouvement punk en France, quand même.
Bah, c'est-à-dire, même s'il y en avait à pas qui à tu demandes ça mais... Parce qu'en Angleterre, ils n'en ont rien à foutre de ça, quoi.
Oui.
Par exemple, hein, c'est pas pour dire.
Il y a eu quand même des groupes punk vraiment qui sont allés.
Ce qui est bien dans le punk, justement, c'est qu'on est tous différents. On était tous différents. Après, c'est devenu uniformisé, comme je disais tout à l'heure. C'est qu'on écoutait. Par exemple, moi, j'aimais pas les Clash. Alors qu'il y en avait plein qui aimaient les Clash.
Les Clash, pour moi, c'est pas un groupe punk.
Il y avait les Pro Sex Pistols contre les Clash. Ouais. Et des fois, même, on n'était pas nombreux, on arrivait à se battre avec les autres parce qu'ils étaient Clash et nous, on n'était pas Clash.
Ouais, enfin, moi, les Clash, excuse-moi, je les ai rencontrés tous individuellement et je peux te dire que c'était des punks, tu vois. Non, ah bah ouais.
Moi, je les ai pas identifiés comme ça. Mais...
Ah oui, forcément.
C'était,
bien sûr.
C'est ça. Mais aujourd'hui, on sacralise tout. Oh, mais à l'époque, on s'en battait le coup.
Pour moi, métal urbain, qui est quand même que j'adore, et que pour moi, c'est quand même punk, et en même temps, c'est des sons synthétiques, parce que ce qui détermine aussi la musique post-punk, pour bon, laquelle...
Il y en a un qui est survivant dans le talent.
Oui.
Alors, excusez-moi, je vous coupe, je fais une annonce. En fait, on a pris un peu de retard, donc on va avoir l'entretien de Pascal Escobar, voilà, à la fin de la table ronde là, qui touche à sa fin. Donc, on prend encore une question et puis on enchaîne avec Pascal. C'est un entretien qui durera 20 minutes, donc ne partez pas, même si en effet, on avait annoncé une fin de session à 13h. Voilà, juste, désolée Brigitte.
C'est pas grave. Donc, sinon, la souris déglinguée, il y avait Oberkampf, il y avait quand même... une flopée de groupes. Mais ils sont venus jouer par ici, dans le sud. Mais
venir jouer, c'est pas y vivre.
Non.
Bah pareil.
Mais ici, le punk marseillais, c'est vrai qu'il a une identité propre, effectivement.
Oui.
Par exemple, nous, on était refoulés. C'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, les gens nous regardaient devant, en disant « Ouais, c'est quoi cette musique de PD ?» Les rockers nous traitaient comme ça, quoi. Et effectivement, on était quand même trois nanas dans le groupe avec le producteur du son, quand même, qu'on ne peut pas nier, qui a vraiment fabriqué le son de Martin Dupont, Alain. Mais on était vraiment très mal vus, quoi. Donc, voilà. De toute façon, à Marseille, quoi que tu fasses, t'es toujours, on te jette la pierre au début, et après, on t'encense. Voilà, c'est ça qui est drôle.
Être mal vu, c'était pas grave. Je veux dire, puis les rockers, s'ils n'étaient pas contents, eh ben, on s'arrangeait avec eux, quoi. Voilà, quoi.
C'est pas grave, ça. Je veux dire, bon, ben, la suite, allez.
Merci, ben, applaudissements. Quand même. Bon, il y a un changement de plateau, hein, mais ne partez pas encore. Oui.